Vous écoutez
RMC.
Info Paris, je vous le disais à l'instant, Fabrice Hawkins qui a bossé, hein, il bosse au quotidien, notre reporter à RMC Sport sur l'ambiance au camp des loges. Il nous dit en clair que Messi fait bien ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas d'autorité. Voilà, ça on le savait, on le dit régulièrement dans l'after.
Jusque-là.
Exemple à l'appui, il avait bien arrêté récemment un entraînement, mais parce que Galtier avait laissé le choix aux joueurs, notamment. Il avait dit, bon les gars, on a quasiment fini, on va faire ça, si vous voulez vous arrêter... Vous pouvez vous arrêter.
C'est ce qu'on fait en CP. Quand on va demander aux enfants s'ils préfèrent faire des maths ou préfèrent faire de la...
Ou alors, en fin d'année, tu te rappelles à l'école primaire, ouais. les jeux de société, tu pouvais amener ou pas, ou travailler. T'avais le choix.
Tu pouvais aller sur la radio et les ramener de chez toi. C'était bien.
C'est bien, hein. Et donc, pour finir, les gars, Messi dit, bah, à ce moment-là, moi, j'arrête. Je rentre au vestiaire. Il embarque avec lui. En tout cas, tout le monde emboîte son pas. Même ceux qui auraient aimé continuer la séance. Autre séance mardi dernier. Effectivement, il avait aussi quitté l'entraînement pour, selon Galtier, une gêne à l'adducteur. Selon des témoins de la scène, très proches, des gens qui étaient sur le terrain, pour être très clair, c'est aussi parce que Messi était agacé par un exercice dont il ne voyait absolument pas l'utilité pour les attaquants. Voilà aussi pourquoi il a quitté la séance. Voilà. C'est une confirmation de ce qui se disait le week-end dernier, qu'on confirme réellement ce soir, pour dire que Messi, effectivement, devant son entraîneur, décide bien de mener comme il le veut ses fins de séance au camp des loges.
On avait première eu semaine, les gars. L'épisode du carton jaune.
Oui, c'est vrai.
Ou jour de repos pas donné comme il fallait, ou en tout cas réclamé par les joueurs et finalement évidemment obtenu, avec menace en rigolant de mettre un carton jaune à l'entraîneur. Bon, voilà. Mais en fait,
il y avait les gilets jaunes aussi, vous rappelez ça ?
Ça n'a jamais été autrement depuis Laurent Blanc. Ce sont les joueurs qui décident. Alors quand les joueurs sont assez forts et ont à leur tête, à l'époque de Blanc, des gens comme Ibrahimovic, Thiago Motta, Maxwell, eh bien ça tourne, parce que ces joueurs-là ont envie que le club aille dans le bon sens. Il y avait Thiago Silva aussi, il y avait un degré de professionnalisme à l'époque que tu n'as pas aujourd'hui. C'est pour ça que quand on me dit ouais, Blanc c'était l'entraîneur avec le jeu et tout, mais absolument pas. Blanc, on a eu 1000 épisodes de l'épisode Aurier à l'épisode d'une tactique alambiquée sortie du chapeau au dernier 3, 5, moment 2, hein. Au retour des vacances en retard, et on s'en souvient, sanction pour Cavani. Enfin, la République des joueurs, elle a toujours existé dans ce PSG là. Encore une fois, ça ne dépendait que du bon vouloir des joueurs et de leur professionnalisme que ça aille dans le bon sens. Quand Emery est arrivé à la suite donc de Blanc, je rappelle quand même qu'il venait pour autorité Grinta. Élément Grinta, très important. Parce que Espagne, machin, ces campagnes européennes, Ligue Europa, là. Je me souviens très bien de ce qu'il a proposé aux premiers entraînements.
Trois victoires en Ligue Europa, quand même.
Ils ont été refusés immédiatement, notamment un positionnement pour Verratti un petit peu plus haut. Un jeu plus rapide en verticalité. Les joueurs, comme ils étaient habitués à fonctionner depuis 3 ans avec Blanc, ont complètement refusé ce jeu-là. Alors que sur certains matchs, dans la période Emery, c'est peut-être le meilleur jeu du PSG qu'on ait eu, comme avec Tuchel un petit peu plus tard, qui lui aussi faisait un petit peu la même chose. Tuchel, pareil.
Il était venu pour l'autorité, la discipline également.
Tuchel, il arrive. Je me souviens, les caricatures qu'on entendait, grotesques sur... évidemment, c'est un Allemand. Oh, allemand, discipline, la marche à la schlag. Mais c'était ça, les caricatures.
Discipline, rigueur, autorité.
On entendait, il faut un allemand. Alors, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait?
Du romantisme.
Et en même temps, il est arrivé, il a pas fait genre autorité, machin, il faisait des câlins. Rappelez-vous, c'est la période câlinothérapie. Neymar, je te dis des mots doux dans l'oreille, machin. Encore une fois, il a fallu câliner les joueurs pour que pendant quelques temps, ils lui rendent quelque chose. Et puis, au fil du temps, c'est parti dans tous les sens également. Voilà, je ne veux pas continuer.
Tu es en train de déresponsabiliser Galtier, finalement. Ce n'est pas de sa faute.
La particularité de ce cas-là, c'est que ça sorte par l'entourage.
Plus que l'entourage.
Plus que l'entourage, c'est-à-dire ça sort sur des sources très fiables. À ce moment-là, à un moment où les joueurs sont questionnés très vivement, que le pauvre Galtier, parce que je vais dire le pauvre Galtier.
Oh, c'est une victime, hein.
Voilà. C'est-à-dire qu'il a le portrait robot, le portrait type de la victime expiatoire. On va charger Galtier. On va dire que c'est à cause de ses entraînements, que c'est pas assez intense.
Tout à fait.
Que Messi n'est pas content.
Comme on a chargé Tourelle avant, Emery aussi.
J'imagine que c'est un exercice de pressing. Voilà. Il a dû essayer de faire comprendre à Léo qu'il fallait qu'il défende. Bon, Léo, le pauvre Messi, après avoir fait, le Barça et les entraînements du Barça, je pense qu'effectivement, l'exercice défensif, ça a dû le gonfler un peu. Il a dû prendre ça comme une provocation. Il est parti. voilà, c'est la République des joueurs, mais c'est plus que la République des joueurs, parce que la République des joueurs, ça signifierait donc qu'il y a un gouvernement rationnel établi entre eux.
Et ça ne
voudrait, c'est la tyrannie de certains joueurs.
Et ça ne voudrait pas forcément dire République des joueurs, non, que les mecs ne travaillent pas dans le bon sens.
Voilà,
ils pourraient monter une République.
Exactement. Ça, c'est une autogestion.
Une autogestion contre un entraîneur avec qui ils ne seraient pas d'accord. Mais ils pourraient bien jouer. Sauf que là, on dit République des joueurs, c'est un peu une formule, mais c'est plutôt la débandade des joueurs. C'est la débandade des joueurs, c'est la chienlit. Et un entraîneur, où tu disais, t'es un petit peu en train de dédouaner Galtier, pas complètement, parce que ça n'est jamais allé aussi vite. Ça ne s'est jamais désagrégé aussi vite. Et jamais un entraîneur a montré autant de lacunes dans le travail. Alors évidemment, on a les blessés, ça c'est comme tous les ans, mais ça, le staff médical, à force de changer sans arrêt, bah il y a rien de pire que de changer sans arrêt un staff médical dans un club, hein, parce que tous les protocoles changent et les mecs se blessent. Là, je vous annonce que pour la fin de saison, ça va tomber là, hein, parce que entre la démobilisation, les mecs qui vont arrêter de s'entraîner, là les deux semaines de voyage, là, enfin de voyage, de types qui vont partir loin. Je t'annonce que là, les blessés, ça va s'enchaîner. Verratti, je lui donne pas beaucoup de temps avant d'être blessé, parce que vu qu'il là, autant pendant un moment il s'était un petit peu calmé, mais alors là, c'est reparti, c'est fiesta à gogo là. Je pourrais même donner l'établissement, tout ça. Enfin, tu veux savoir où
l'établissement pas nécessaire, mais tu peux dire.
L'anecdote, c'était tous les autres.
non, mais ça, il envoie, c'est ça, bah, ça.
Non, mais
ça,
c'est
Thibaut, à ce propos également, est-ce que nous avons
la fête, là, bien commis.
Je sais pas si vous savez également, mais ce que nous dit Fabrice Hawkins là, en 2022. Real PSG, 8e de finale retour. Donc, on connaît l'histoire. Le PSG est éliminé. Les joueurs du PSG avaient prévu une soirée à Madrid, dans la foulée de la rencontre, qu'ils ont voulu maintenir. Malgré la défaite et malgré l'élimination, certains ont voulu rester sur place. Il a fallu l'intervention de Nasser, voilà, épreuve d'autorité, pour les obliger à monter dans l'avion et rentrer à Paris. Ouais. Un exemple, hein, c'est pas pour dire que c'est pas du fait de Galtier, évidemment.
Non, mais
c'est quelque chose. Et tu l'as dit. C'est quelque chose de conjoncturel, de profond, de structurel.
Après la défaite contre Rennes, Verratti, ça l'a pas empêché d'aller faire la fête et de s'en mettre plein le cornet, quoi. Et tout le monde, et au vu de tous, tu vois, c'est pas des choses qui restent secrètes dans ce genre d'établissement. Il y a des gens qui les voient, des gens qui parlent, des gens qui envoient des photos, tu vois, faut arrêter les mecs. À un moment, ils avaient le truc, notamment Matignon, c'est de faire en sorte et de demander avec autorité à l'établissement que tous les clients, s'ils devaient être là, laissent les téléphones à l'entrée. Ça s'est fait.
Ce que fait Neymar pour ses anniversaires et autres.
Oui, Neymar, il fait ça quand il fait ça chez lui à Bougival. Mais là, maintenant, il s'en fout tellement que, c'est tranquille, ça passe.
Non, et puis ils sont à travers le personnage de Galtier, qui est déjà au départ un mauvais choix depuis le début. Il a la tête du coupable idéal, quoi. Donc effectivement, on peut pas l'exempter de responsabilité, parce que je pense qu'il avait pas du tout le profil, il avait pas du tout le charisme, la légitimité pour être à la tête de cette équipe là.
Il est toujours là, Galtier. Je précise pour ceux qui
ne savent pas. On en parle déjà au passé, parce qu'il
est toujours entraîneur du Paris Saint-Germain.
Mais la question, c'est est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de saison.
Et il a cru à certains joueurs. Évidemment, Neymar l'a trahi comme il trahit tout le monde. Avec la fameuse phrase, toi tu crois en moi, je vais tout te rendre cette année, on va gagner le championnat, la Ligue des Champions et tout. Neymar a dit ça, au mois d'août là. Hein. Ouais. Neymar lui a fait une sorte de promesse, je vais être béton cette année, et il a fait la même chose à Campos, hein, Neymar, au Japon, hein, pendant les fameux 4 jours qu'ils ont passé là-bas.
Il est capable de dire ce que ses interlocuteurs veulent entendre. Donc il sait très bien qu'ils veulent entendre ça, donc il leur donne ça. C'est un très bon commercial. C'est la qualité aussi de l'escroc. Hein. Dans ce sens-là, l'escroc, c'est celui-là. C'est celui qui va te dire les choses que tu veux entendre. Les gens qui se sont fait avoir par téléphone sur des arnaques, c'est ça. Ça m'est arrivé...
Pas qu'au téléphone, dans la vie, parfois.
Je peux en parler. C'est précisément ces gens-là. T'as envie de croire ce qu'on te dit. T'as envie de croire que Neymar, oui, il va enfin se mobiliser pour le PSG. Et lui, il le sait, ça. Oui. Il le connaît très bien. Donc voilà, c'est pour moi, plus qu'une république, c'est une tyrannie, un despotisme des joueurs. C'est-à-dire, vraiment, on obéit aux humeurs des joueurs, comme si c'était des enfants.
Et les trois prochains matchs, Nice, Lens dans le désordre et Lyon. Je les ai
Lyon,
dans le désordre.
Lyon d'abord, oui.
Ouais. Que le PSG en perde 2-3, ça ne m'étonnerait pas. Et je pense qu'après, ça peut dépendre de l'OM et de ses dérapages parfois incontrôlés.
Ouais.
Comme tu penses encore jouer à Marseille,
d'une, d'une, d'une,
tu penses
d'une
que c'est pas enterriné.
Écoute. Ah bon? Écoute. Je pense que limite, ça dépend plus de l'OM. Regarde les 10 derniers matchs de l'OM. S'ils arrivent.
Le calendrier est plus dur pour Marseille que pour Paris.
S'ils arrivent à en gagner 8-10, je pense que l'OM sera pas très loin. Écoute bien,
Montpellier, Marseille-Montpellier, Lorient-Marseille.
Moi, je dis 8 sur 10. S'ils arrivent à en gagner 8 sur 10, après, évidemment, s'ils refont des matchs contre Strasbourg, tu mènes 2-0, c'est dans la poche, et tu te fais reprendre.
Mais c'est aussi Marseille.
Ça. Mais parce que Paris, c'est qu'ils en perdent 2 sur les 3 qui arrivent, ça ne m'étonnerait pas. Dans la foulée, ils vont jouer plein d'équipes un peu bas de tableau.
Et Lens, il y a combien de différences?
Et je te dis qu'il y a un paquet de joueurs qui vont être blessés, un paquet de joueurs qui vont plus du tout être mobilisés. Attention,
bon,
attention.
J'y crois pas trop, mais bon.
C'est vrai que Marseille, pas dit que j'y croyais.
Faudrait que fasse 24 points, 8 victoires, c'est 24 points, que Paris en prenne 17 sur 30 possibles. Il y aurait beaucoup de défaites parisiennes dans le lot. Mais pourquoi pas? Écoute, on va en parler dans un instant. On vous attend au 32-16 également. Je veux qu'on parle encore de Christophe Galtier. Tu as dit cette phrase à l'instant, Thibaut, est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de la saison? Toi, hier dans l'after, tu as affirmé que José Mourinho peut être l'homme idoine au Paris Saint-Germain.
Mais je ne comprends pas pourquoi Thibaut a dit ça. J'arrive pas, j'ai beau l'écouter.
Thibaut peut te décevoir aussi, si tu n'es pas d'accord avec lui.
C'est possible. J'arrive pas à comprendre pourquoi.
Voilà. Oui, très bien. Pourquoi? Vous avez des avis divergents aussi, les gars, parfois.
Parce que tout. Comme c'est plus...
Attends, la pause, on fera après. Allez, on revient dans un instant.
Du timing.
Allez, c'est la chauffe, là. L'after, 22h15, Daniel Riolo, Thibault Leplat. On parle du PSG encore. Je vous rappelle qu'on sera avec Christian Gourcuff à 23h. On parle de Campos également dans un instant. N'hésitez pas. Et puis, Buffon a parlé. Il a adoré. Mais on parle de sa vie à Paris. Je vous dirai quelques déclats.
J'ai vu la séquence et tout, quand il s'embrouille au sujet de Verratti avec Cassano. C'est extraordinaire.
Philippe Lam a parlé de Verratti aussi. Allez, reste avec nous.
Il l'a déboîté.
Voilà, l'after, écoute, jusqu'à minuit avec Daniel et Thibault.
Les gens finissent par ouvrir les
yeux. Sur RMC, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit. L'after foot.
Nicolas Jamin.
L'after, 22h18 sur RMC avec Daniel Riolo et Thibault Leplat. Vous nous appelez au 32-16. On poursuit sur le Paris Saint-Germain. Les infos, vous pouvez trouver, que je vous ai lu à l'instant, sur le site rmcsport.fr également. Alors, la suite de la saison, on a commencé à en parler avec vous, messieurs, Daniel et Thibault. Thibault, toi, ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que Paris peut encore lâcher le titre cette saison?
Ah oui, moi je pense que tout est possible.
Okay. Je connais bien, Kobe, je connais bien ce club. Tout est possible.
Donc 7 points, c'est très peu dans un contexte comme celui-là. Si peut-être rendez-vous dans 3 matchs, comme dirait. Je sais plus qui avait dit ça sur l'autre jour.
Rendez-vous en terrain inconnu.
Rendez-vous dans 3 matchs parce que c'est possible. C'est parfaitement possible. Dans ce club, tout est possible, y compris parce que tu perds pas simplement dans ce club. Tu perds avec panache, tu perds avec gloire, quoi. Tu perds avec une certaine idée esthétique de la loose, quoi.
Voilà, c'est un gadin monumental.
C'est toujours, on est à la limite du scandale à chaque fois. Ça peut pas juste être une défaite.
Ce qui n'est pas réellement arrivé quand Paris avait de l'avance à Dijon et de la fin.
Ce qui n'est encore
Paris ne s'est jamais vautré sur les 10 derniers matchs.
C'est justement parce que c'est jamais arrivé.
Il faut le titre acquis. Voilà. Lille, par exemple, face au PSG.
C'est justement parce que c'est jamais arrivé que là, on se dit qu'il y a quand même tous les éléments. Il y a toutes les, tu sais, comme dans les scénarios Netflix, où tu sais, t'as les tensions, les premières séries, t'as les personnages qui s'instaurent, etc. On avait parlé ça au début de saison.
Et là, t'as vraiment plus personne. Attention au nombre de blessés. Hein.
T'as la victime expiatoire, t'as le gentil, le méchant, t'as le défi qui semble facile à faire.
T'as les jeunes qui peuvent te sauver, mais qui sont tapés dessus après chaque match. Beaucoup de choses.
Il manque une étincelle.
Bon. Et Bruno nous dit sur Direct Studio justement, si Galtier reste, hein, bien sûr que le titre peut être perdu. J'accueille Fabien au 32-16, supporter du PSG, ultra du PSG d'ailleurs. Salut Fabien.
Salut toute l'équipe.
Alors justement, avec toi, on va évoquer un volet qui a déjà été évoqué hier soir, ce week-end, après la défaite du PSG au Parc des Princes, l'absence de réaction hostile. Je ne dis pas que je les souhaite, hein, ils ont fait la promotion des ultras du Paris Saint-Germain. T'es un ultra donc, Fabien, t'étais au stade dimanche?
Non, je ne vais plus au stade depuis 2015.
D'accord, pourquoi?
Ben, parce que malheureusement, les groupes d'ultras, les vrais, sont partis quoi, du parc. Enfin, ont été remerciés.
Et ça, c'est une réalité qu'on dit trop peu. Il y a une vraie remise en question. Beaucoup, j'ai reçu énormément de messages ces derniers jours sur la réalité des groupes ultra au Parc des Princes, sur le fait que beaucoup ont arrêté d'y aller, que beaucoup revendent leur place parce qu'ils sont résignés, abattus, qu'il y a de plus en plus de touristes, même en tribune Auteuil. Honnêtement, je savais pas tout de ce contexte-là, ça rend la situation encore plus inquiétante.
Bah après, le pire, c'est qu'ils ont voulu lisser vraiment les tribunes, ils ont voulu lisser l'image du club, mais derrière, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un quoi, qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressenti, il n'y a rien. Quoi.
Bon. Mais toi, tu appartenais à quel groupe?
Moi, j'étais dans le virage Auteuil.
Et tu faisais partie d'une assoce ou t'étais juste comme ça
indépendant
en, indépendant en train dans la
Non, moi j'étais indépendant, on avait un groupe, on était une quinzaine, du coup on s'est mis avec le virage Auteuil.
D'accord. Et à quel moment t'as noté qu'il y avait une évolution? C'est dans le rapport au club, dans le rapport avec la direction?
Bah, dans le rapport avec la direction, ce qu'on avait eu, en fait, les groupes d'ultra versus une, comment dire, des documents, ben, suite au rachat. Donc, c'était, la première année, il n'y a rien eu, c'est en 2013-2014 qu'on a commencé à avoir des communiqués. Mmh. Où justement, en fait, le PSG expliquait que, voilà, il y avait certaines choses qu'il fallait plus faire, il y avait certains tifos, certaines banderoles à plus faire, enfin, vraiment un lissage vraiment des tribunes, dans le sens où il fallait plus aller à l'encontre du club, il fallait plus aller à l'encontre de l'image de Paris.
Mais ça, alors, si tu veux, évidemment, là, ça éclate au grand jour, et ce qui se passe en ce moment l'a montré, mais l'année dernière, après la défaite contre le Real, on a vu ce qui s'est passé sur la fin de saison. Il y a quand même eu une grève qui a été assez forte, qui a entraîné.
On se souvient du PSG Bordeaux,
qui a entraîné une vraie brouille entre une incompréhension entre certains joueurs et le CUP. Pour le coup, à ce moment-là, j'ai cru, en tout cas, j'ai vu un virage Auteuil complètement en phase avec ce que pensait la majorité des supporters parisiens, dans la contestation, dans le fait de faire grève, de ne pas fêter le titre, de ne pas être répondre présent au moment d'un match contre l'OM quand même. Donc je trouve qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu de la vie, quoi. On a senti qu'il y avait encore un vrai soutien. Là aujourd'hui, il y a eu ces dernières semaines, si on met bout à bout, l'idée que le PSG pourrait ne plus jouer au Parc des Princes. À une autre époque, c'était scandale, ouais, banderole, le parc est à nous, le PSG,
2011, ouais,
le PSG, ça doit jouer au parc, mais ça aurait fait un bruit pas possible. Là, il y a évidemment aucun compte, fameux suiveur là, les lèche-bottes, évidemment, eux, rien du tout. Parmi dans les médias, très peu de bruit à ce sujet-là.
Tribune. C'est ça, en fait, c'est que.
Tribune, rien du tout. Les résultats catastrophiques, élimination, tu perds contre Rennes, du début à la fin, ça chante, pas une contestation. Mais, enfin, je connais le parc depuis que je suis môme. Mais c'est inadmissible. C'est un truc de fou, ce qui s'est passé samedi.
Vas-y, Fabien. C'est même pire que ça, parce qu'au final, on se fait marcher dessus. On a Lionel Messi qui nous crache à la gueule depuis plusieurs mois. Mmh. Et au final, il y a rien qui est fait, quoi. Enfin, les mecs, ils viennent, ils voient Kim Kardashian, ils font des selfies, ils sont contents, ils ont payé leur place impeccable, ils ont vu une star américaine.
Et le pire, c'est d'entendre certains consultants continuer à dire, ah ouais, faut pas siffler Messi, Messi mérite pas la Ligue 1, machin, toutes ces conneries-là. Mais dans quel football on est? Qu'on interroge, honnêtement. Qu'on interroge. Alors, évidemment, les autres supporters qui sont pas PSG en France rigolent. Mais si tu les prends juste sérieusement, même un supporter de l'OM, tu lui dis, mets-toi à la place, ça va être dur pour lui, mets-toi à la place de supporter du PSG. Mais il devient fou.
Il n'en a rien à foutre que ce soit Messi.
Messi, la reine d'Angleterre, le roi d'Angleterre, rien à foutre. Bon, tu te comportes comme ça par rapport à ton club et par rapport aux supporters, mais tu peux être Dieu sur terre qu'on en a rien à cirer.
La chair est faible. N'importe quel club, tu vois bien, Newcastle, tu peux voir des clubs historiques. Newcastle, tous les supporters qui descendent dans la rue pour remercier MBS d'avoir acheté leur club.
Tant qu'ils ne se fourvoient pas et qu'ils ne vendent pas l'âme du club. Mais là, le PSG aujourd'hui est en train véritablement d'arriver à.
Le problème, c'est que c'est une conjonction de choses qui fait que le PSG est en train de se défaire de son territoire. Est en train de disparaître de son territoire. Le Saint-Germain a disparu du logo. Le maillot, maintenant je joue avec le maillot Dortmund en troisième maillot. L'hypothèse de pouvoir quitter le Parc des Princes ne fait plus autant de vagues qu'en 2011. On a Kim Kardashian qui vient, apparemment est supportrice du PSG. Je sais pas quand. Sauf que Kim Kardashian, quand elle va à Bernabeu ou dans les hostels, elle fait pas des selfies avec Florentino Pérez, ou en tout cas la com du club le relaie pas. Ça fait pas partie de la com du club. C'est pas un titre, tu vois. C'est pas un titre de gloire.
Il y a un service au PSG qui contacte des boîtes d'agents, d'artistes, d'acteurs, de machin, et qui pour chaque match un peu recrute, parce que des fois ils n'arrivent pas à trouver des acteurs et des people pour qu'ils viennent au Parc des Princes et qu'ils soient visibles sur les photos. Des gens du spectacle et tout, regarde, je suis invité au Parc des Princes. On me dit limite, viens, quoi.
Et on a un club qui a un problème avec son stade,
en réalité.
Son territoire. ses supporters, ce qui reste de supporters historiques. Donc on a un club qui est en train de se vider de l'intérieur, mais qui a, c'est la stratégie du club. Bon. C'est l'internationalisation, augmenter les recettes. Donc là, tu payes le prix d'un investissement fait un peu sans queue ni tête, mais qui en même temps est révélateur de ce qu'est le PSG maintenant. Et effectivement, quand tu vois que les supporters, finalement sifflent beaucoup moins que prévu, ils sont un peu à l'image des clubs, des joueurs qui sont un peu à l'image de la direction, où tout le monde est un peu pieds et poings liés avec QSI. Personne n'ose vraiment risquer sa place. Et tout le monde est là en train d'essayer de défendre, pas arriver à avoir une position claire, parce que t'as trop à perdre. Et tout le monde a beaucoup à perdre dans cette histoire. Et ce qui fait que tout le monde est dans ses petits souliers, que ce soit de la mairie de Paris, en passant par les supporters du CUP, les consultants, les joueurs, et maintenant l'entraîneur du Paris Saint-Germain, dont on vient parler de Christophe Galtier, qui n'a pas dit un mot sur Ney et Léo, si ce n'est pour les complimenter, il est exactement dans la même situation dans laquelle se trouvent les supporters historiques aussi. Je pense que tout le monde est pieds et poings liés là, dans cette histoire.
Alors, nous, on avait réussi à contacter des membres du CUP, qui nous avaient dit, la question pourquoi vous n'avez pas réagi dimanche au Parc des Princes, on prend l'Union Sacrée jusqu'au 11e titre de champion de France du PSG. Oui. On veut ce nouveau titre, mais après la trêve, s'il y a d'autres contre-performances, cela sera dur. Voilà. Donc c'est peut-être qu'ils vont appuyer après l'obtention du 11e titre.
Nico, c'est toujours ce principe-là. Vous allez bientôt avoir une récompense. S'il y a toujours ce petit gros lot qu'on agite devant, que fait QSI depuis le début, où on va toujours t'agiter en disant, ah oui, mais attention, il y a le 11e titre. Ah oui, mais attention, on va avoir un super mercato. Oui, mais attention, ça va changer. Et à chaque fois, le gros lot.
Ça s'appelle
le foulard rouge.
Ton gros lot.
Oui, des gros lots, mais j'aime bien le côté gros lot, ça fait gling gling. Tu vois, c'est vraiment, on reconnaît le son et ça fonctionne à chaque fois. Donc, peut-être qu'il y a un moment, il faut prendre un risque aussi, que ce soit de la partie. Moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais
toi, tu veux Mourinho, toi, c'est ça. On va en parler dans un instant. On fait une pause. Je remercie Fabien d'avoir fait le 32-16. Merci, Fabien.
Merci à vous, les gars.
Tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr. Ciao. On va parler de Mourinho, bien sûr. Alors, il n'y a pas d'informations concrètes aujourd'hui sur Mourinho qui pourrait venir au PSG la saison prochaine. Il y a effectivement des rumeurs, des faisceaux d'indices. Bon, on sait qu'il est proche de Luis Campos également.
Des faisceaux de présomption.
Mais n'allons pas en faire une information aujourd'hui. Mais je veux quand même entendre Daniel, parce que c'est comme un sapin de mer, Mourinho. Ça fait quelques années qu'on en parle. Il serait le seul à pouvoir asseoir une réelle autorité dans un club qui n'arrive pas à discipliner ses stars. On en parle en débat dans un instant au 32-16. Tiens, Thomas Tourelle aussi, on va en parler également. Restez avec nous, c'est l'after avec Daniel Riolo, Thibaut Leplat sur RMC, 22h28. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo, Thibaut Leplat, RMC, 22h32. On parle du Paris Saint-Germain. On finit avec le PSG, messieurs. Tiens, avec encore une autre information que nous dit Fabrice Hawkins aussi concernant Thomas Tourelle. On nous confirme que le club l'a sondé et continue d'explorer la piste Thomas Tourelle. Mais Tourelle est échaudé par certains aspects de son premier passage à Paris. Il n'entend pas revenir dans ce contexte-là.
Je ne vois pas ce qui peut avoir changé par rapport à l'époque où il disait que c'était pas un entraîneur, que c'était pas du coaching de foot que tu faisais, mais de la politique. Il l'a dit, comme d'autres l'ont dit avant lui. Je ne vois pas ce qui peut lui faire croire que les choses vont changer. À moins qu'on agite le gros lot de la promesse que ça va changer.
En
fait, le problème, là où il y a un vrai pessimisme qui peut régner autour du PSG, c'est que quand on envisage la saison prochaine, peu importe le coach, tu dois récupérer. T'as vu le wagon de joueurs que tu dois récupérer qui sont à droite à gauche en prêt et qui sont mauvais? Va falloir les récupérer. Bon allez, on va me dire, si tu les as prêtés une fois, tu vas pouvoir les reprêter deux fois. Ok, pas sûr, parce que leurs prêts sont pas bien passés. Les prêts ont pas été bons et les mecs ne sont pas illustrés.
Notamment,
Il y a plein, il faut récupérer Kurzawa, des gardiens à droite à gauche. Enfin bon, bref, une catastrophe. Par ailleurs, t'as prolongé Neymar. Alors évidemment, on n'arrête pas de dire, il faut le virer, tout le monde veut le virer, tout ça. Ok, à part lui signer un chèque, c'est compliqué.
Ce sera le premier club de l'histoire du football qui va payer un chèque
pour partir.
Plus cher que pour l'entraîner.
Je sais pas combien il accepterait pour partir. Voilà. Donc, t'as Neymar prolongé, Verratti prolongé, Marquinhos prolongé. Qu'est-ce que tu fais avec ces mecs-là? Et de plus en plus, alors que je ne voulais pas y croire, que je pensais justement que le fait qu'on recule la prolongation, qu'on ait attendu, parce qu'on parlait beaucoup de la prolongation de Messi avant la Ligue des Champions. Je me suis dit, ils attendent la Ligue des Champions parce qu'au fond, ils ne veulent pas le prolonger. Campos n'a pas envie de le prolonger. Donc, ils ne le prolongeront pas. Or, de plus en plus, j'entends que réellement, à Doha, on veut le garder. Et là, c'est pas du pessimisme, quoi. C'est juste arrêter. Vous pouvez fermer là, le cube, c'est bon, vous pouvez ranger les drapeaux, les banderoles, tout ce que vous voulez, c'est fini. Laissez les touristes venir au parc. Si Messi, Neymar sont encore là l'année prochaine, tu ne gagnes pas le titre. Tu ne seras pas champion. Ça, c'est sûr, certain. Là, autant l'été dernier, j'ai dit, la Ligue des Champions, c'est comme d'habitude, voire pire. Là, c'est carrément, tu ne seras pas champion si tu continues avec les mêmes mecs. Donc, c'est pour ça que c'est... Parce que je ne vois pas comment tu peux te débarrasser de tous ces types-là. Tu ne peux pas refondre le vestiaire.
Et avec quel entraîneur, Daniel, également? Et avec quel entraîneur? Parce que je pense que tu es d'accord que Galtier, c'est terminé.
Mais si ça se trouve, il n'y aura personne. Et que...
C'est pour ça, d'où l'hypothèse Mourinho. Pas parce que, bon, moi, je n'apprécie pas forcément le style de jeu, etc. Mais là, on est bien au-delà du football. C'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le football. Et c'est justement parce qu'on ne parle plus vraiment de football que Mourinho se présente comme un peu le personnage incontournable, je crois. Pourquoi? Parce que, un, il va permettre pour les Qataris de s'en sortir par le haut, c'est-à-dire à signer un entraîneur prestigieux qui est bankable, qui a la classe, qui parle français, etc. En même temps, il va permettre de lui, dans sa carrière, qu'il est plutôt sur la pente descendante, Mourinho, revenir au PSG, ça lui fait revenir dans le game, de revenir dans les gros clubs, revenir sur le premier plan de la scène européenne. Donc là, il y a un intérêt commun. Et ensuite, la question, c'est de savoir quel va être le deal. Est-ce que Mourinho, s'il vient, qu'est-ce qu'il va demander en échange? Certainement le départ de Neymar et de Messi. Il est capable de foutre le feu au club.
Et oui, mais c'est
pour ça.
Ce que les Qataris n'aiment pas, ils n'ont jamais fait le choix d'un homme très fort.
Sauf qu'il est en position de force pour négocier là, maintenant. C'est pour ça que la rumeur fuite maintenant. C'est parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire que c'est maintenant en négociation. Est-ce que si j'y vais, est-ce que j'ai le droit de un droit de regard sur les départs et en particulier sur les départs de Neymar et Messi. Mais ça, il l'a toujours fait dans tous les clubs. Il a toujours fait ça. Et c'est un type qui a une vision assez précise du vestiaire qu'il veut. Moi, je dis pas du tout que c'est l'entraîneur avant-gardiste qu'il était il y a 20 ans, etc. Pas du tout. Il est un peu dépassé sur certains sujets. Évidemment, si je dirige un club rationnel, je prends pas Mourinho. En revanche, si je dirige un club complètement irrationnel, un club qui ne fait que dépenser à tort à travers pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le football, j'ai besoin d'un type qui n'a plus grand chose à voir avec le football et qui est le seul entraîneur capable maintenant d'avoir ses propres réseaux aussi, parce que c'est un type qui a beaucoup de réseaux, d'influencer le club par ses réseaux à lui. La preuve, on est en train d'en parler, c'est des rumeurs qui n'ont pas du club.
Ses réseaux à lui, déjà beaucoup au club en ce moment, donc
oui, il y en a en plus des, oui, mais même dans les médias, même nous, enfin c'est quelqu'un qui a quand même bonne presse, on en parle beaucoup, voilà. Donc c'est quelqu'un qui à mon sens, d'un point de vue stratégique, et la bonne personne si tu veux faire une sorte de révolution en douceur, si je puis dire. Après, si tu veux tout mettre par terre, virer tout le monde et tout recommencer à zéro, c'est pas la bonne personne. Il vaut mieux prendre Tuchel pour faire ça. Mais pour, il a fait au Real hein, quand il arrive en 2009 ou 2010.
Il fait le ménage.
Ouais. Il fait le ménage. Et c'est lui qui fait venir Varane, c'est lui qui fait venir Ozil, c'est lui qui fait venir Modric les années d'après.
Le problème, c'est qu'on n'est plus du tout en 2010.
Oui, mais
il a perdu et l'énergie. Ouais. Vas-y.
Mais moi, je veux bien que le Real du 2010 maintenant, hein, ça me dérange pas.
Non, mais le problème, c'est qu'il a plus personne. C'est un gars qui est complètement fini. Et si tu prends ce qui s'est passé avant au Real, quand ils sont brouillés avec tout le monde, il n'y avait pas de problème parce qu'il avait une telle énergie que ça lui permettait de renverser pas mal de montagnes. Sauf que à partir du milieu des années 2010, il a perdu tout ça, tout ce fluide qu'il avait, tous ces gens qui le suivaient, parce qu'il a toujours agi un peu comme un gourou.
Il gagne deux coupes d'Europe.
Le problème, c'est pas de gagner.
Que tout le football français.
Le problème, c'est pas de gagner.
Bah, au Paris Saint-Germain, un peu quand même.
Mais non, je suis désolé. Emery, il avait gagné avant. Tuchel, il a gagné avant. Après, mais
tu peux pas comparer le palmarès d'Emery et le palmarès de Mourinho.
Mais la question aujourd'hui, c'est
la Ligue des Champions. C'est le seul entraîneur à avoir gagné toutes les coupes d'Europe.
Mais la question du PSG, c'est pas le palmarès, puisque tu as dit toi-même que c'est pas le foot qui t'intéressait et que ça n'était pas le palmarès.
Non, c'est pas ça.
Tu te contredis parce que tu viens de dire que c'est pas ça qui va t'intéresser.
C'est pas la seule chose. Mais c'est toi qui me parle de palmarès. Et sur le palmarès, je te réponds. Je te dis que sur le palmarès, tu peux pas le comparer aux autres.
C'est tout ça, c'est vieux. Tout ça, c'est vieux, le temps passe.
Et on en a eu des jeunes.
De l'énergie.
On a eu des jeunes.
Mais on en a eu des jeunes. Alors, je vais essayer de me faire comprendre.
Vas-y. Écoute.
Manchester United, Chelsea, tous les clubs où il est passé dernièrement, ça a été le feu. C'est le feu. Déjà que le PSG est en feu, si tu le prends, lui, mais d'abord, tout Mourinho qu'il est, il sera confronté aux mêmes merdes avec ce vestiaire-là. Et tu peux me dire, à partir du moment où ils s'en vont pas, me faire croire que parce que c'est Mourinho, il va dire à Neymar va sur le banc, Verratti va sur le banc, Marquinhos va sur le banc.
Bien sûr.
Ou alors il faudra qu'il le remette au travail.
Bien sûr.
Et il ne remettra pas au travail.
Comme il a fait avec Pogba.
En fait, tu vas faire, on va faire, en fait, tu vas faire des finis avec des finis. Non mais et Pogba, mais d'abord, l'embrouille, ça a plombé le club encore plus qu'il l'était. Et alors, honnêtement, même quand il gagne l'Europa League avec Manchester United, d'abord, je ne crois pas que l'objectif du PSG ce soit de gagner l'Europa League. Et quand il la gagne, c'est une sorte de titre par défaut, parce que la place de Manchester United, c'est pas en Europa League, c'est en Ligue des Champions. Et là-dessus, il a rien fait avec Manchester United.
Ma question,
comme
c'est
il a rien fait
la question,
avec tous les clubs où il est passé récemment, à part mettre le feu, s'embrouiller avec tout le monde.
Si. La question n'est pas de savoir si Mourinho est un grand entraîneur aujourd'hui, si c'est le meilleur entraîneur à l'heure actuelle. C'est pas ça ma question. Moi, si tu me demandes, c'est pas ma réponse. Ma réponse, c'est pas ça. Ma réponse, c'est Régis Le Bris.
La réponse, c'est que tu vas attendre. le football qu'il fait jouer à ses équipes.
La question,
c'est catastrophique.
La question est demain, tu es Nasser El Khelaifi. Tu es aux manettes demain. Quelle est la décision que tu dois prendre? Est-ce que quel est l'entraîneur?
Mais c'est ça la question. Vas-y, réponds Daniel.
Non, mais t'oublies un truc essentiel.
Parler dans en général.
Si vous t'es posé la question à Daniel, il répond.
T'oublies un truc essentiel, tu sais que même s'il vient, même s'il arrive à mettre l'autorité en place, même s'il arrive, bon, Neymar sera trop tard parce qu'il est cramé. Mais on va dire un mec comme Verratti.
Il est encore en contrat.
Le mec, je te fais t'entraîner, je change les méthodes d'entraînement. Il n'y a plus de blessés. Les mecs sont opérationnels.
C'est son staff, ça joue. Son adjoint.
C'est son staff et tout. Eh bien, avec son football, tu ne vas nulle part en Coupe d'Europe. C'est terminé. En Ligue des Champions, c'est fini. Son football, il est dépassé. Son football, il ne donne plus rien en Ligue des Champions.
Et il est en quart de finale quand même de
retour. Mais c'est plus le football qui est. C'est plus. Non, mais c'est pas. C'est pas le football de la Ligue des Champions. Il est dépassé.
Demain, écoute,
il y a trop de conditions.
Si tu es Nasser, demain, tu es Nasser. Qu'est-ce que tu vas vendre aux supporters? Tu vas vendre. Moi, même si je pense que ce n'est pas l'argument le plus intéressant.
Il n'est plus à la mode.
Tu vas vendre le palmarès, le type, un palmarès incroyable. Il va nous aider. Ça marche. Un bout de marketing, ça marche. Ça tient en un post Instagram. Ça suffit. Tu peux mettre une photo de Mourinho en costard avec sa montre, etc. Ça tient. Ok, ça fonctionne. C'est pas ça l'argument principal. Mais c'est l'argument marketing. L'argument principal est de savoir qu'est-ce que ce type a à perdre au Paris Saint-Germain. Rien. Il a absolument rien à perdre. Pourquoi? Et le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'on a que des gens qui ont peur de perdre leur boulot, qui ont peur de perdre leurs millions, qui ont peur de perdre leurs followers, qui ont peur de perdre leur place au parc, qui ont peur de perdre leur abonnement.
Ah, là, on a un Mourinho, la seule chose qui ça va l'intéresser.
Non. Mais il s'en fiche, il a déjà gagné. Ce qui l'intéresse, c'est d'être champion dans les 5 plus grands champions. On peut trouver ça ridicule.
Et champion en Ligue 1, c'est important pour lui.
Depuis qu'il y a le Paris Saint-Germain, oui, évidemment. Écoute, ce qu'il avait dit, je suis retombé sur une déclaration.
Mais à l'époque, sur l'équipe.
Il déclare qu'il a eu sur Deschamps en 2021 sur l'Euro où il parlait d'Mbappé. Il disait n'importe qui avec Mbappé dans son équipe est capable de gagner une équipe. Le réservoir français est tellement riche que c'est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné l'Euro en 2021. C'est ce qu'il dit sur l'Euro 2021 sur la gestion de Deschamps. J'imagine parfaitement Mourinho arriver au Paris Saint-Germain et construire une équipe autour de Kylian, avec Kylian qui sera ravi d'avoir un entraîneur enfin de haut niveau.
Mais avec le jeu qu'il va lui faire pratiquer,
Ronaldo.
Bon, pour l'instant, c'est pas une information encore une fois. Voilà. Moi, je précise.
Moi, c'est une piste.
C'est très clair.
Qui me fascinait.
Mais beaucoup, réclament Mourinho également.
Tout
le monde veut le père Fouettard.
Non, mais
c'est les choristes.
C'est un très mauvais raisonnement.
C'est
fini. C'est pas du foot. C'est fini, Thibaut. C'est fini.
On va entraîner pour Daniel. On sait pas.
On va en parler dans un instant. On a encore quelques minutes sur le PSG. On va accueillir Thomas également au 32-16 et on parlera de Luis Campos également, son rapport au Celta Vigo. Reste avec nous. C'est l'after jusqu'à minuit avec Daniel et Thibaut. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Avec Thibaut Leplat, avec Daniel Riolo, c'est l'after. Il est 22h45, on est sur RMC. Tout à l'heure, on aura Christian Gourcuff. On parlera également, on aura aussi Julien Laurencin qui nous donnera des nouvelles de Manchester United et du rachat. Depuis maintenant 45 minutes, les dossiers ont été déposés. Voilà. Il nous en dira plus sur les prochaines étapes de la vente éventuelle de Manchester United. Dans un instant, on va accueillir également un autre supporter du Paris Saint-Germain. Autre information que je voulais vous donner, messieurs, la double casquette de Campos va peut-être durer encore. Voilà. Quelques éléments d'abord qu'on a gratté en Espagne, avec Fred Hermel d'ailleurs, auprès des confrères qui bossent au quotidien sur le Celta. Je vous confirme donc qu'il n'est pas du tout sur le départ. Bien au contraire, on envisage en Galice de renforcer son poids parce que son bilan est positif depuis son arrivée il y a un an. C'était en mars 2022. Parce qu'il a choisi l'entraîneur et que ça se passe bien. Ils sont contents de lui. Le Celta est 10e de Liga aujourd'hui. On lui attribue également un bilan mercato très correct.
Et on n'est pas du tout gêné à Vigo, évidemment, par la double casquette. Hein. Il est venu 4-5 fois depuis qu'il a pris la direction du recrutement, entre guillemets, même si c'est un rôle pas réellement officiel. Il n'est pas sous contrat avec le Celta Vigo. C'est un super conseiller recrutement du Celta.
Il est sous contrat au PSG ?
Non plus.
C'est-à-dire qu'ils ont le directeur sportif du PSG.
C'est un électron libre, en fait, qui distille ses conseils.
Distille ses conseils ? Tu penses que c'est uniquement ça ?
Non, pas que ça. Non.
Entre espèces sonnantes et trébuchantes.
Mais à un moment, le truc, c'est que quand dans le milieu, tu n'entends que tout le temps à son sujet, c'est monsieur 30%, bah, tu es obligé d'y croire à un moment.
En plus, ils sont
à partir du moment où ils refusent les contrats dans les clubs, c'est bien qu'il y a quelque chose en dessous. Ça veut dire qu'il travaille pour une agence, qu'il travaille pour lui, pour des sociétés qui sont
jeunes.
Il a des intérêts à faire venir des joueurs ou à faire partir des joueurs. Moi, je suis désolé, je veux bien ne pas croire à ce qu'on raconte ou me dire les mecs qui te disent ça, ils ont pas forcément de preuves et tout. D'abord, c'est des gens sérieux qui le disent, mais deux, c'est pas normal.
Mais c'est pas lui le problème, sur les clubs qui l'embauchent, qui font travailler. C'est ça aussi.
En plus, le type du Celta,
c'est le Celta ou le PSG.
Comme le PSG, un club qui se veut d'une dimension internationale, peut avoir un directeur sportif qui ne travaille pas pour toi, qui est pas un salarié du club. Comment on peut accepter ça? Ça n'a pas de sens.
En plus, les types du Celta, ils sont ravis parce que comme ça, ils ont le directeur sportif du PSG au prix du Celta.
T'as raison. Et c'est ce qu'ils pourraient en profiter également.
C'est un petit discours.
Quant à la venue éventuelle de joueurs.
Ils sont ravis. Ils sont ravis dans cette histoire. C'est qu'en plus, les types sont ravis.
Il est là uniquement parce que c'est le bon vouloir de la famille Mbappé et que c'est pour ça qu'il est là, parce qu'on le voulait absolument et qu'il est venu avec son coach. Bah regardez la situation du club aujourd'hui.
Non, mais il y a rien qui tient debout là.
Le club a jamais été dans une telle situation depuis 10 ans. C'est une des pires saisons. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce choix qui a été imposé par un joueur. Parce que c'est le joueur qui a été découvert par lui, enfin qui l'a imposé en équipe première à Monaco. En faisant virer le mec qui était à la formation à l'époque.
C'est fait n'importe comment parce que je me mets très bien j'imagine très bien la réunion quoi. Je dis, bon alors c'est qui le meilleur directeur sportif du monde? C'est Luis Campos. La preuve, il a fait tant de millions à tel mercato. On va prendre Luis Campos. Sauf que Luis Campos, c'est pas un directeur sportif d'un club comme le Real, c'est comme le PSG.
Dimensionné comme le PSG.
C'est pas du tout le même travail d'être directeur sportif à Monaco, à Lille, qu'au Paris Saint-Germain. La preuve, c'est que tu recrutes, tu fais un mercato de Lillois pour un club comme le Paris Saint-Germain. Évidemment, quand t'as Fabien Ruiz au LOSC, c'est sympa, c'est un beau transfert. Sauf qu'au Paris Saint-Germain, c'est pas exactement ça qu'on te demande. Donc, tu recrutes pas les bons profils au bon poste. C'est ce qu'il faut, c'est pas un Luis Campos.
Tu fais partir des mecs qui étaient meilleurs que ceux qui sont venus.
Voilà, et t'as pas besoin d'un Luis Campos, c'est pas le meilleur directeur sportif du monde qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est un vrai directeur sportif, c'est quelqu'un qui connaît le football et qui est capable de dépenser un peu d'argent.
Exactement.
Voilà. À la limite, il faut un banquier.
Il identifie les bons profils.
Il y a rien de plus facile que recruter au Paris Saint-Germain.
Tu mets de l'ordre dans le club, tout simplement. Tu fais respecter le club par les joueurs. Tu commences par ça.
Voilà.
Tu mets un entraîneur qui a des principes de jeu et.
D'ailleurs, t'as posé la question tout à l'heure, Thibaut, tu penses à qui? Là maintenant,
l'entraîneur idéal
au PSG,
il y a deux profils. C'est si tu fais le ménage ou si tu fais pas le ménage. Et après, est-ce que le gars vient en
part du principe que le ménage sera pas fait, Daniel,
en ayant le droit de faire ce que tu veux. Entraîneurs, il y en a. Alors évidemment, le candidat idéal, a priori, c'est Zidane parce qu'il incarne les deux, le jeu, l'autorité, où tu te dis qu'il va réussir à imposer une vision, il va coller à la dimension
réellement. Tu prends du plaisir à regarder le Real réellement?
Si,
ou pas
quand même. C'est
le recrutement, surtout.
C'est pas Deschamps, c'est pas.
C'est le management, surtout. Qui est bon.
Voilà, mais management et tout. C'est Colin Ancelotti, c'est un peu tradit, c'est bien. Et après, en Italie, il y a un ancien joueur du club qui est en train de monter très très fort, c'est Thiago Motta, qui a les faveurs en plus de la direction, parce qu'il est encore très proche des dirigeants et de Nasser notamment. Mais encore une fois, c'est, je pense, quelqu'un qui va devenir un très bon entraîneur.
C'est pas parce que t'as été l'entraîneur du mois de février que t'es un bon entraîneur.
C'est vraiment
un très bon entraîneur.
C'est quelqu'un qui sera amené à être un bon entraîneur.
C'est pas que
le problème
de compétences.
C'est que tu viens pourquoi, à quelles conditions?
Bon. Donc est-ce que lui il est capable d'assumer une parole forte, de s'opposer à la direction s'il le faut?
Dans ces cas-là,
je suis pas certain. Moi, je
sais ce que tu fais. Tu le prends lui. Tu vas dire à Ibra, arrête ta carrière et viens faire le taulier comme tu faisais à l'époque.
Oui,
parce que lui en plus
le grand frère proche du vestiaire, il va recadrer tout le monde.
Tu prends Mourinho, t'as les deux en main.
Ibrahim a encore joué au foot. Hein. Il a dit aujourd'hui qu'il était le passé, le présent,
prends,
le futur.
Tu prends Maxwell qui a récupéré pas mal de joueurs via Mino Raiola à qui il était lié. Mm-hmm. Bon, bah, tu fais un peu avec ceux de la bonne période du PSG.
Peut-être. Thomas est avec nous, 32-16, supporter du PSG. Salut Thomas.
Ouais.
Bienvenue dans l'after, Thomas. Daniel et Thibaut sont à mes côtés.
Ibrahim, il va voir Neymar, il va lui coller deux tartes.
Attendez, les gars, on accueille Thomas d'abord. Vas-y, Thomas. Tu nous écoutes à débattre. Tu évoques quoi? Campos? Éventuelle prolongation de Messi? Tu veux parler de quoi?
Non, parce que franchement, ça va m'irriter si je parle de prolongation de Messi. Mais là, vous abordiez un sujet intéressant. Et Daniel l'évoquait très bien aussi. C'est, en fait, quel est l'entraîneur idéal? Mais en fait, pour moi, aujourd'hui, tu peux placer n'importe quel entraîneur dans le contexte actuel. Il ne deviendra pas idéal. En fait, tu peux avoir un entraîneur idéal si tu fais le ménage, comme il a dit Daniel, de fond en comble. En fait, et là, tu repars éventuellement avec une autre politique, un autre projet, et tu mets un entraîneur qui correspond du coup à ce que tu veux mettre. Et l'exemple, enfin, vous en parliez, mais Thiago Motta, moi, j'aime beaucoup, quitte à repartir un peu, en arrière, reconstruire, etc. Mais au moins, ne serait-ce que nous supporters, on veut retrouver un peu de plaisir, un peu d'attache à ce club, cette identité. Et Thiago Motta, moi, voilà, j'ai encore l'image de ce joueur avec le maillot du PSG qui donnait pour le club et qui nous permettait de nous identifier encore PSG, même si, avec l'époque Ibra, etc., on passait pas les quarts de finale. Mais t'avais quand même cette équipe, il y avait une âme quand même PSG. Même si Paris était décrié sur ce côté mental, etc., etc. Mais on se reconnaissait, nous, en tant que supporters. Là, le coup, moi, perso, le coup de Kim Kardashian ce week-end, j'ai plus envie de regarder, j'ai plus envie d'allumer ma télé, de regarder une info sur le PSG. Je veux plus. C'est une catastrophe totale. Je veux
la photo de Nasser avec Kim Kardashian et le maillot, je pense que c'est un coup de couteau dans le dos des supporters.
Dans le contexte actuel, parce que dans l'absolu, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Tu peux avoir des résultats et attirer des stars au
fond. Oui, mais c'est tellement symptomatique.
Voilà, c'est ça. Sur le fond, on s'en fout, Kim Kardashian. C'est pas un problème que des stars.
Il y a toujours eu des stars. On s'en fout. C'est tombé sur la star vide par excellence.
Voilà, c'est que tu tombes sur la star qui est.
Excuse-moi, ça.
Pas si vite que ça.
Ah, quand même.
C'est quoi son œuvre?
C'est pas pour la reconnaissance quasiment au quotidien du génocide arménien.
Ouais, enfin, c'est une œuvre.
Elle fait des choses. Pour le droit des femmes.
C'est le
droit des minorités.
C'est le symbole de la vacuité, de la télé-réalité. Maintenant,
elle le fait aujourd'hui quand même.
Parce qu'elle a réussi à avoir deux, trois
combats. Elle se sert de sa notoriété pour
elle
ça.
Elle incarne une sorte de vacuité, de page people. Elle arrive, comme tu disais tout à l'heure, Thibaut, elle va un peu
partout. Elle appelle Neymar d'ailleurs, t'as vu?
Elle appelle en direct partout. Elle se fait pas prendre en photo comme elle l'a fait là. L'autre, il y va là. Mais il était grotesque avec son maillot, là, son petit costume. Je suis à la photo à côté de Kim Kardashian. Mais il est ridicule, Nasser, mais tellement ridicule.
Toi, tu refuses, elle arrive, Daniel Riello peut faire une photo avec.
Mais ça dépend le contexte, quoi, déjà. Et dans ce contexte-là, défaite, machin, et puis c'est en plus après,
trophée, quoi,
le storytelling derrière, elle a téléphoné à Neymar pendant le match et tout. Neymar qui joue pas, qui en ce moment est vraiment le symbole de l'échec du PSG. Mais tout est ridicule. Tout est ridicule.
Bon, ridicule, hein. Thomas, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, moi je voudrais juste qu'on parle de foot, qu'on associe le PSG à un projet, un nouveau projet, mais un projet, même je le disais tout à l'heure, quitte à repartir un peu, faire un pas en arrière pour en faire deux en avant plus tard, mais je sais pas trouver une identité. Essayer de.
Il y a un an, jour pour jour, on parlait de révolution et de la fin du bling bling.
Mais oui, mais on savait, Daniel, que tu vas pas faire une révolution avec Campos et Galtier, c'est pas possible. Ouais. De toute façon, si tu restes avec cet effectif-là, ce contexte-là, tu peux mettre ce que je disais tout à l'heure, n'importe quel coach, ça n'ira pas. C'est pas géré. Un président comme Nasser ne peut pas rester en place pendant plus de 10 ans avec ces résultats-là. C'est pas possible. Je veux dire, là, c'est pas qu'une question d'entraîneur. Moi, j'ai besoin de retrouver l'identité PSG. Nous, les supporters, on est vraiment, on est dépités parce qu'on voit en ce moment. Et on a aimé le PSG parce qu'on aimait le club avant tout et parce qu'on se retrouvait dans ce club-là. Et là, moi, je n'ai plus aucun. J'arrive plus à retrouver ne serait-ce qu'une accroche d'amour de supporter.
Peut-être Thomas, et tu me corrigeras, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi, il faut aussi se souvenir de l'ADN particulier de ce club-là aussi. Le Paris Saint-Germain, ça a toujours été plus qu'un club de football. Ça n'a jamais été le football, le cœur de son cœur de métier. Ça a toujours été un club de vitrine, ça a toujours été un club de chemise rose, ça a toujours été un club de panache.
D'accord, encore plus ces dernières années.
Donc, quelque part, ce qu'on voit en ce moment, c'est un site très ADN PSG. c'est aussi très, alors c'est sans doute la partie la plus sombre, la plus difficile à regarder, mais c'est aussi
la plus repoussante.
Mais c'est le reflet symétrique du panache. C'est le contraire du panache qui est le ridicule.
Mais ça
participe de la même idée, à savoir que dans ce club-là, on fait rien comme les autres. Et même si on veut gagner la Ligue des Champions, on gagnera pas la Ligue des Champions comme les autres l'ont fait. On ne perdra pas comme les autres l'ont fait. Et d'ailleurs, ça se reproduit chaque année. Et peut-être même cette saison, on est même un peu déçu dans la manière dont ça s'est passé contre le Bayern, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'effondrement collectif. Il n'y a pas eu le panache qu'il y a eu dans les années précédentes. Donc il y a dans ce club-là cette folie.
Voilà, j'aime bien le concept.
Il y a eu cette
le loser magnifique.
Il y a toujours eu cette folie au Paris Saint-Germain, parce que ce qui est lié à la ville de Paris. Regardez ce qui se passe dans les rues à Paris en ce moment. Il y a toujours eu dans cette ville et dans ce club cet aspect volcanique. Et ça a toujours été partie du club. Et c'est pas, en réalité, c'est pas ça le problème. Pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand ça, cet aspect volcanique, tu le retournes contre toi-même. Là, c'est un problème. Cet aspect volcanique doit rayonner. Tu dois faire briller la Tour Eiffel sur le blason. Tu dois montrer la ville lumière, etc. Je vous fais pas le refrain. Mais c'est de dire que tu vas rayonner et que ces rayons-là, ils aillent vers l'extérieur. Et ça, l'ADN du PSG, l'ADN de cette ville-là, de la ville lumière, c'est ça. C'est cet aspect universaliste. Le problème, je le répète, c'est de retourner.
Ça tombe mal, voilà.
C'est comme ça retourne. Anne
Hidalgo
contre
à la mairie et Nasser au PSG.
Donc, t'as un espèce de que toi, mon cher.
Et en plus, t'as ce qui se passe en ce moment dans les rues de Paris.
T'inquiète pas, ça va pas t'engager, toi.
Tout ça fait partie d'une même mayonnaise.
Tu vas certainement penser que tout se passe très bien à Paris.
Je dis pas ça.
Ce club-là doit trouver son propre chemin. Et il a besoin d'un quelqu'un qui soit capable de l'incarner. Est-ce que Thiago Motta peut le faire? Moi, je pense à un personnage dont on parle jamais pour plein de raisons, qui est Rai. Où est Rai? Pourquoi ce type-là n'est pas là?
Mais parce que je pense qu'il a pas envie.
Évidemment,
il a pas envie.
Je sais pas.
Il sait où il est, il est au PFC.
Oui. Ça pose pas de problème,
c'est une solution un petit peu romantique également, mais
non,
comme
c'est
dit Daniel,
historique.
Non, mais il faudrait,
c'est une solution historique. C'est une partie aussi.
Il n'a pas la personnalité pour
l'envie.
Regarde Papin avec Longoria. Il n'a pas le caractère pour être un grand sportif.
Papin, il est là juste pour faire les photos.
C'est ambassadeur.
Non, il est là. Il accompagne le président partout.
Ça sert à quoi ça?
Non, ça sert à donner une continuité historique.
Non, ça c'est bien. Je pensais que
la vitrine aussi.
Si c'est pour la vitrine, oui, c'est très intéressant.
Non, mais de l'avoir avec la Fondation PSG.
Je suis pour, mais le problème, c'est qu'on n'en est pas là aujourd'hui au PSG. On n'est pas là. On en est à des fondations. On n'en est pas à avoir quelqu'un en tribune à côté du président. On en est à du costaud, quoi.
Je remercie Thomas. Merci Thomas d'avoir fait le 32-16.
Salut Thomas.
Tu peux nous rappeler quand tu veux. Tu es le bienvenu, comme toujours, sur RMC. On parlait un instant d'entraîneur idéal pour le PSG. On va parler de jeu idéal. C'était la quête de l'homme qu'on va recevoir, Christian Gourcuff, dans le titre de son livre, qui sera avec nous dans quelques secondes. Il y a des questions à lui poser. Je crois qu'il nous regarde quasiment plus le foot aujourd'hui, ça n'intéresse plus, en tout cas l'évolution du foot contemporain ne l'intéresse pas. On va le questionner là-dessus, pourquoi il va nous répondre. Reste avec nous Daniel Riolo, Thibaut Leplat, c'est l'After sur RMC, 22h59, à tout de suite.
RMC, l'After Foot.
RMC.
Tu me prendrais pas pour un perdreau là, un peu, non? Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non?
38 par 3, ça doit faire 114.
Non, je calcule vite. Matière préférée, c'est les maths.
Je suis un matheux.
Et la Dream Team DRC. Non, j'ai arraché.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Et si Deschamps était la solution un jour au Paris Saint-Germain, peut-être, hein, on peut faire le débat ce soir. Daniel Riolo, Thibault Leplat, écoutez, dans l'after, je vais me faire insulter, je pense. 23h02, merci d'être avec nous. Tiens, juste pour vous dire également que tous les podcasts clubs de l'after sont en ligne. After Lyon depuis hier, After Paris, avec un Daniel en grande forme, d'entrée, qui a bousillé mon sommaire, qui m'est rentré dedans. C'est en ligne également. L'After Marseille également est en ligne. Vous pouvez y aller. Il sera question de Paul Lopez, le gardien de l'Olympique de Marseille. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure également, c'est qu'on a eu confirmation que c'est bien Campos, hein, qui a décidé d'envoyer Ruben Blanco du Celta à Marseille, hein, pour être la doublure de Paul Lopez. C'était
donc
bien sa décision.
Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a envoyé un de ses joueurs qui est dans une agence.
Un confrère
chez le principal rival du Paris Saint-Germain.
Qui travaille en Galice auprès du Celta qui nous a dit ça. Bon, sachez également que demain, on a fait une heure sur le PSG, on fera une heure sur l'Olympique de Marseille. Hein. Flo Germain sera aussi avec nous, Daniel, Thibaut seront là également sur l'ambition marseillaise, sur les prochains mois, prochaines années également, comment Marseille peut un jour espérer franchir un cap. Flo Gautreau parlait de l'étape numéro 2 maintenant du projet marseillais dimanche soir, après la victoire à Reims. Ce sera le sujet demain avec Flo Germain, notamment, et vous au 32-16. Mais d'abord, notre invité, Christian Gourcuff, est avec nous dans l'After. Bonsoir, Christian.
Bonsoir.
Heureux de vous accueillir. On vous reçoit parce que vous publiez un livre intitulé « Ma quête du jeu idéal ». C'est un livre d'entretien dans lequel vous livrez vos réflexions sur le jeu, la tactique, votre méthode qui vous a permis, et je le dis pour les enfants qui ne nous ont pas connus, de faire quasiment 40 ans de carrière en tant qu'entraîneur après avoir été un joueur, entraîneur à Lorient, que vous avez amené et maintenu en Ligue 1. Il y a eu Rennes également, Nantes, le Qatar... en club, la sélection algérienne aussi. Vous êtes retiré des terrains depuis près de 3 ans chez vous sur vos terres bretonnes. Et vous avez, je peux le dire aujourd'hui, 67 ans. Le foot, c'est terminé, je crois qu'on peut le dire pour vous désormais.
C'est terminé. Malheureusement, parce que c'est toujours... C'est toujours difficile d'arrêter parce que c'était une passion, mais bon, je pense qu'aussi c'était bien, donc sans regret.
Ça vous manque un peu ou pas quand même, parfois?
Oui, le foot, parce que le foot tel que je l'ai aimé, évidemment, parce que c'est une passion, ça a été une passion depuis mon enfance, donc c'est difficile, mais pas ce que j'ai vécu sur les dernières années, donc c'est pour ça que la retraite a été la bienvenue, je pense qu'elle est arrivée au bon moment, et c'est bien aussi de ne pas avoir de regrets, justement, donc voilà, tout est très bien.
À quel moment, Monsieur Gourcuff, à quel moment vous marquez votre rupture personnelle quand vous dites le foot que j'ai aimé ou la période que j'ai aimé? Et d'ailleurs, j'étais très étonné que votre premier chapitre ce soit le football moderne. Je pensais que vous parlerez du football moderne un petit peu plus loin dans le livre. Donc je reviens à ma question de base. À quel moment vous vous dites là, il y a un truc qui me plaît plus, là j'ai adoré, là c'est un peu fini?
Le foot, il reste le foot, et on voit toujours, même si je vois beaucoup moins de matchs maintenant, mais on voit toujours des bons matchs, il y a toujours de belles actions, il y a toujours de bons joueurs, mais l'environnement du foot a tellement été modifié que ça change tout, ça change la perception des choses, les structures de clubs qui ont modifié beaucoup de choses avec une du résultat à outrance, et tout est basé sur le résultat, mais c'est à l'image de la société, je pense que ça c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est une évolution de la société. Alors, moi je dirais que ce que j'ai connu à Lorient à une certaine époque, et je me rends compte maintenant, c'était exceptionnel. Donc, il y a eu une accélération très très rapide ces dernières années, je dirais depuis 10 ans.
On parle souvent de Régis Lebris également. Je ne sais pas si vous regardez encore les matchs de Lorient, Christian. Vous les regardez? Vous avez encore un lien particulier avec le club?
Non, pas du tout.
Plus du tout. Bon, j'imagine que l'arrivée d'un actionnaire américain, notamment à Lorient, n'a pas dû vous ravir.
Alors revenons à votre premier chapitre. Donc
j'ai une question sur ce qu'il pensait peut-être. Parce que Régis Lebris semble s'épanouir pleinement, tu vois, en tant qu'héritier peut-être de Christian Gourcuff à Lorient.
En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il a une grande admiration pour vous toujours. Il parle du sens collectif et du sens de la collaboration en particulier dans votre football, dans le bon sens du terme évidemment.
Mais est-ce que ça vous touche?
Bien sûr, j'imagine.
Régis, on a travaillé un an ensemble. Je l'ai fait venir au centre de formation. Bon, on voyait bien que c'était quelqu'un d'intelligent. Il y a pas de problème sur ses qualités. Après, c'est qu'il est et ce qui s'est passé à Lorient cette année. Bon, ça me surprend pas dans la mesure où moi je suis parti justement parce que j'étais en désaccord avec cette politique de dirigeante et de mais qui n'est pas simplement à Lorient. Lorient est privilégié parce que c'est un petit club. On voit bien qu'il y a des investisseurs américains qui viennent, américains ou autres d'ailleurs, dans tous les clubs. Donc ça change complètement la donne sur le plan sportif. Déjà sur le plan de la durée. Le travail se fait dans la durée. Voir maintenant quel entraîneur peut se prévaloir d'avoir un peu de temps. Guardiola peut-être à City parce qu'il a une aura, mais la notion de temps qui existait il y a 20 ans encore n'existe plus.
Moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça, et que la notion de la pression du résultat, la pression des investisseurs, ça existait déjà. Après, qu'il y ait une sorte de comment dire, de phénomène qui perdure et qui peut lasser, ok, possible. Mais on n'allons pas débattre de ça parce que votre livre, c'est tout autre chose. Vous parlez évidemment de ce qui vous intéresse le plus, à savoir le jeu et le terrain. Il y a un autre point commun en dehors du fait d'avoir entraîné Lorient avec Le Bris, c'est qu'en ce moment, il est un peu chouchou des médias. Et si on parle de vous, parce qu'on doit parler de vous et de votre livre, pendant des années, je ne sais pas comment vous avez vécu ça parce que vous n'étiez pas quelqu'un qui parlait beaucoup dans les médias. Nous, en tout cas, dans l'after, bah, vous faisiez partie, évidemment, des entraîneurs dont on disait toujours du bien, parce qu'on aimait vos principes de jeu, parce qu'on aimait votre football. Est-ce que vous vous en rendiez compte, ça, finalement, que vous étiez dans tous les médias, énormément de journalistes ou de gens qui font l'opinion dans le foot, bah, un entraîneur qui, peu importe, c'est marrant parce que, vous voyez, vous parlez de pression du résultat, mais finalement, on s'intéressait évidemment à vos résultats, mais pas tant que ça. Ce qu'on aimait chez vous, c'était votre discours et le jeu que vous proposiez, finalement.
Oui, mais parce qu'on était à Lorient. Donc c'est aussi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans finalement dans les petits clubs, on est encore un peu privilégié justement parce que on aborde les choses un peu différemment. Après, il faut pas noircir non plus complètement. C'est-à-dire que la notion de plaisir, la notion de sport, elle a pas disparu. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est de moins en moins présente par rapport à des intérêts financiers qui sont présents partout. Et c'est, je parle des dirigeants, je parle des joueurs aussi. La mentalité des joueurs qui a énormément évolué en 10 ans. Les
ça,
joueurs que j'ai connus,
sont
complètement différents des nouveaux joueurs. Avec les agents, je dirais même les supporters qui sont aussi différents de ceux qui existaient il y a 20 ans. C'est incontestable. Donc la presse a évolué aussi, les réseaux sociaux ont modifié les choses. Donc c'est tout un environnement qui a modifié. Maintenant, c'est pas, bien sûr, le foot, ça reste le foot. On peut très bien s'amuser encore sur un terrain, et heureusement.
Mais alors vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, quand je parlais des années où vous étiez un petit peu l'ovni de notre football, l'homme qui a des méthodes différentes, l'homme qui propose du jeu, il y a eu des belles périodes quand même à Lorient, on s'en souvient tous évidemment. Bah, si vous regardez plus le foot, j'aurais presque envie de vous conseiller de rejeter un petit coup d'œil sur la Ligue 1, parce que les années où vous entraîniez dans les années 2000, où on aimait beaucoup vous regarder, je pense que vous pourrez pas dire le contraire, mais pour le reste, qu'est-ce qu'on se faisait chier en Ligue 1 avec certains de vos confrères qui partageaient pas du tout vos idées?
T'as raison, si Gourcuff était l'ami des fins, si les médias valaient Gourcuff, les entraîneurs français avaient du mal. Le trouver un peu arrogant, le professeur de maths.
Si vous regardez la Ligue 1 aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, il y avait pas mal, vos confrères étaient pas tendres avec vous, ça c'est vrai. Mais si vous regardez, rejetez un coup d'œil à la Ligue 1 aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs, on s'emmerde beaucoup moins, il y a beaucoup d'entraîneurs qui envoient du jeu maintenant. Hein.
Ben c'est bien. Mais par contre, c'est sur quelle durée? C'est sur quelle durée? Vous avez quel entraîneur qui peut se targuer d'avoir 10 ans d'ancienneté dans un club?
Non, mais il y a 10 ans d'ancienneté,
Coco Soudo,
bien sûr. Non, mais c'est un peu valorisant, Christian Gourcuff, de voir, je sais pas, l'OM Tudor démarre sa première saison, le jeu qu'il fait pratiquer à l'équipe, alors qu'il a pris l'équipe cet été. Franchement, je pense que ça pourrait vous intéresser, c'est assez intéressant. Et il y a pas mal d'entraîneurs qui proposent des choses plutôt bien et qui arrivent à les mettre assez vite en place, hein.
Oui, mais ce que je vous dis, c'est sur la durée, sur la mise en place la création d'un collectif, ça demande du temps, et un consensus autour qui permettent de travailler dans la durée, et ce qui n'est plus le cas, hormis des clubs encore privilégiés au plus haut niveau, ou alors au niveau inférieur, où justement on leur fout la paix parce que bon, ça intéresse peut-être moins les médias, donc c'est voilà. Maintenant, je veux dire, c'était moi, je l'ai ressenti un certain temps aussi, parce que il y a une question d'âge aussi, et quand on est en décalage avec l'environnement, on est d'abord moins performant, moins entraînant, c'est clair, et puis donc il faut savoir s'arrêter.
D'autant que vous aimiez participer aux entraînements avec vos joueurs, notamment être au cœur du travail au quotidien, et que aujourd'hui vous ne sentez plus de le faire. Thibaut a des questions à vous poser.
Regardez ça déjà. L'entraîneur qui entraîne, alors maintenant on pourra me dire c'est pas pour ça que c'est moins bon, mais c'est l'entraîneur qui entraîne, c'est devenu très extrêmement rare. Donc, la part de l'entraîneur dans la création d'un collectif est bien moindre qu'elle n'était il y a 10 ou 20 ans.
On va parler de ça dans un instant avec vous, Christian Gourcuff. Hein. On va prolonger, Thibault Leplat a des questions à vous poser.
Le dernier recrutement.
Comment ?
Le recrutement, par exemple.
On va en parler également, si vous voulez. Restez avec nous encore, Christian Gourcuff. On a des questions encore à vous poser. On va parler de tactique, de votre sacro-saint 4-4-2.
Si tu dis pas une pause, il peut pas l'entendre.
Si
t'as pas dit.
J'ai pas dit on fait une pause.
Pour ça. Ouais.
Bon, je vais retourner à l'école de journalisme quelques mois peut-être. Christian Gourcuff, on revient dans un instant. On fait une pause. Hein. Dans moins de deux minutes, on est avec vous. Des questions à vous parler de 4-4-2, du 3-5-2, ce que vous en pensez également peut-être. Ce système à la mode depuis maintenant 10 ans. C'est l'after avec Thibault Leplat, Daniel Riolo. Restez avec nous, c'est RMC.